BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va parler des jeunes. Qui sont-ils? Que veulent-ils lors de leur premier emploi? Ça sera notre sujet avec Manuelle Malo, elle est directrice carrière et prospective de l'EDEC. Et puis, on va parler des discriminations, celles notamment que subissent les femmes au travail. Il n'y a que 37% de femmes cadres. On était à 30% il y a 20 ans. Ça avance, mais trop lentement. On en parle dans un instant avec Laetitia Niodo. Elle est DGA de l'APEC. Et puis, je vais vous présenter une femme, justement, de caractère. C'est Virginie Delalande, elle est sourde profonde, elle est aujourd'hui conférencière, juste avant elle était avocate. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et on va parler des jeunes, de leur rapport à leur premier emploi et de leurs aspirations de carrière. On est avec Manuelle Malo, bonjour. Vous êtes directrice carrière et prospective de l'EDEC. Vous avez fondé un centre de recherche sur les aspirations des jeunes générations qui s'appelle New Gen Talent Centre. Vous faites des enquêtes sur le monde du travail. Vous vous êtes concentrée sur ces jeunes en essayant de faire un profil de jeune type. On a tendance à penser que parfois, il y a un jeune, un type de jeune qui est parfois trop utopiste, parfois trop compétitif, parfois trop engagés, ils sont tous ça à la fois en fait.
Absolument. Donc bonjour. Oui, effectivement, dans notre New Gen Talent Center, nous faisons des études sur les aspirations professionnelles de ces jeunes. Et dans les ambitions professionnelles, dans les nouvelles ambitions professionnelles, on a voulu casser quelques stéréotypes. Et notamment le stéréotype d'un jeune qui serait d'abord désenchanté du monde de l'entreprise. C'est pas du tout le cas, hein. Ils sont au moins 9 sur 10 à trouver que l'entreprise est un lieu de création, de progrès, d'innovation. Pour autant, ils sont pas naïfs, hein. Ils nous disent aussi que c'est un monde complexe, un peu vertical, qui ne favorise pas toujours l'épanouissement. Mais ce qu'ils sont surtout, c'est qu'ils ne sont pas uniformes. Ils ont des motivations qui sont totalement plurielles. Alors, vous l'avez dit, il y a les compétiteurs qui sont centrés plutôt sur leur propre progression de carrière. Il y a les engagés, et ça, c'est un groupe nouveau et qui explose en termes de nombre, qui est un groupe qui est centré plutôt sur les aspirations du monde, en tout cas centré sur l'engagement pour le monde et les enjeux du monde. Et puis le troisième groupe important sont les entrepreneurs qui sont plutôt centrés sur un travail en auto-management et la liberté d'entreprendre.
Globalement, la question de l'impact sociétal de l'entreprise a pris un poids considérable dans le rapport à l'entreprise. 77% des jeunes en école de management considèrent que l'impact sociétal sera un critère déterminant dans le choix de leurs emplois. Ça veut dire qu'ils vérifient avant de postuler la manière dont se comporte l'entreprise. Ils vont assez loin dans leur quête d'information.
Alors, ils vont très loin, parce que dans ce monde de transparence, aujourd'hui, ils vont aller puiser des informations sur des sites spécialisés auprès d'autres salariés, auprès de leurs experts. Ils vont vérifier ce que dit l'entreprise. Alors, ils vont vérifier déjà la raison d'être de l'entreprise. Il y a beaucoup d'affichages sur la raison d'être. Est-ce que ça se matérialise réellement? Ils vont également vérifier le contenu de leur job. Et c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même pourra avoir un impact positif, en tout cas l'afficher, mais est-ce que dans mon emploi, j'aurai moi aussi un impact sociétal positif? Est-ce que je vais être utile à la société?
Donc il n'y a pas seulement que l'empreinte de l'entreprise, il y a son empreinte personnelle.
Oui, c'est ça qui change aujourd'hui. Il y a ce que dit l'entreprise, est-ce que je suis aligné avec ses valeurs? Ça, c'est certain. Parce que je rends l'entreprise aujourd'hui redevable des enjeux du monde. Donc est-ce que cette entreprise est à la hauteur de ce que j'attends par rapport à ces enjeux du monde? Mais il y a aussi mon job au quotidien. Est-ce que mon emploi, le contenu de mes missions, va avoir une utilité sociétale?
Sauf que c'est pas toujours le cas. Il y a plein d'emplois qui n'ont pas un impact mesurable directement, ni sur l'entreprise, ni sur la société. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une suridéalisation de ce que va être un job et son job futur quand on a fait des écoles de commerce, des écoles de management connues?
Oui, alors il y a les rêves de carrière qui parfois sont rattrapés par la réalité. Mais dans tous les emplois, ils peuvent trouver un impact positif. Alors c'est l'impact qu'ils vont avoir sur la société, c'est est-ce que je contribue à la diversité, à l'inclusion, est-ce que je contribue à une forme d'égalité de homme-femme? Est-ce que je contribue à produire des produits ou des services verts, ou en tout cas à un impact faible sur l'environnement? Et ce qu'ils cherchent, c'est pas forcément 100% de leur mission à impact sociétal. C'est au moins une petite partie. En fait, ils veulent être fiers de ce qu'ils font. On ne peut pas le reprocher.
Non, mais quand on vous entend, on se dit que les entreprises qui aujourd'hui cherchent à attirer les meilleurs talents ou à les conserver doivent communiquer quasiment sur voilà à quoi tu vas servir de positif dans les 6 mois, vraiment dans le détail, et mettre en avant ce qu'ils vont faire de bien.
C'est tout à fait ça. C'est pas seulement voilà ce que mon entreprise, voilà ce que l'entreprise fait de bien, mais voilà quel sera ton impact quotidien dans ton emploi.
On parlait de l'effet déceptif. On reproche beaucoup à cette jeune génération de ne pas avoir de vision long terme et de se démotiver, démoraliser à la première tâche qui ne correspond pas parfois à ce qu'ils aimeraient faire. Est-ce que vous constatez ça aussi?
Alors oui, il y a un petit syndrome déceptif et il arrive assez vite sur le premier emploi. Mais ils vont tester. C'est la génération du test and learn. On sait, ils vont tester des emplois. Ils vont avoir une succession de projets. C'est vrai qu'ils ne s'inscrivent pas dans la durée dans un poste. Ils vont capitaliser de l'expérience et finalement, arrivés autour de 30 ans, ils vont s'inscrire un peu plus dans la durée.
Mais aujourd'hui, il y a une période de test, en fait.
Il y a un peu une période de test. Et finalement, on dit aujourd'hui que les entreprises doivent faire attention à leur onboarding, on le sait, mais aussi à leur offboarding, c'est-à-dire la façon dont elles acceptent de se séparer de jeunes diplômés au bout de 18 mois, 2 ans, 3 ans, pour ensuite peut-être les retrouver plus tard dans la carrière. Et cette génération, on l'appelait boomerang, finalement,
c'est quelque chose qui part et qui revient,
c'est quelque chose de complètement nouveau et qui est vraiment propre à cette génération.
Eux, c'est intégré. Ils se disent, je peux partir, revenir dans 10 ans. D'ailleurs, dans votre précédente étude, les nouvelles générations, pour 79%, la carrière sera multiple à 79%, multi-entreprise à 87%. C'est totalement intégré. Le mouvement d'entreprise à entreprise est totalement intégré.
Absolument. Et de projets. Et c'est même des projets au sein même d'une même entreprise. Et c'est là où l'entreprise peut avoir un rôle à jouer très important. C'est faire en sorte que le parcours de l'étudiant intègre cette déception un peu précoce, et tous les 6 mois, 12 mois, 18 mois, peut-être leur donne un nouveau projet. Et c'est bien le succès, par exemple, des graduate programmes qui proposent sur une période de 2 à 3 ans une multitude d'expériences et donc de rotations, hein, ces fameux programmes de rotation internationaux, sur une période qui va durer 3 ans. Et ensuite, on va les fidéliser, cette fois, dans un poste de beaucoup plus long terme.
Quelle est aujourd'hui la place du salaire dans ces esprits de jeunes ?
Alors, jusqu'à 30 ans, ils ne sont peut-être pas rattrapés par des contingences d'immobilier
familial ou d'achat immobilier.
Et c'est vrai que le salaire, c'est important, parce que c'est la preuve que le job est utile pour l'entreprise aussi. Mais ce n'est pas le premier des critères. Le premier des critères, ça va être réellement l'impact de l'emploi, l'utilité sociale de l'emploi. Ça va être également la flexibilité que l'on pourra trouver. Évidemment, on a parlé de télétravail, mais c'est la première étape et évidemment, c'est le préalable. C'est la flexibilité au quotidien, voire le travail asynchrone, puisqu'on en parle aujourd'hui, et le mix de ma vie privée et de ma vie professionnelle pour eux.
Par contre, à 30 ans, il y a une bascule.
C'est-à-dire qu'on... Alors oui, elle correspond finalement un peu à l'âge du premier enfant pour la femme ou de l'achat de la résidence principale. Et là, on s'inscrit un peu plus dans la durée. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sensibles, encore une fois, à l'utilité sociétale de leur poste.
Vous qui vous concentrez sur les jeunes, est-ce que vous voyez des différences aujourd'hui entre les jeunes femmes et les jeunes hommes qui rentrent sur le marché du travail, ou vous avez l'impression que les jeunes femmes sont désormais exactement comme les jeunes hommes, avec une envie de carrière, de hiérarchie, de management?
En tout cas, chez les jeunes diplômés d'école de management, on a exactement les mêmes ambitions professionnelles et les mêmes envies.
C'est une bonne nouvelle.
Oui.
Dans vos profils compétiteurs, entrepreneurs, engagés, est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Ou est-ce qu'on est forcément dans une des trois cases?
Non, justement, de la même façon que ces ambitions sont plurielles et protéiformes, elles vont peut-être évoluer. On a un profil compétiteur au départ, et puis ensuite on va peut-être s'engager, et puis après on sera entrepreneur, voire même des doubles profils. On peut être un entrepreneur engagé. On peut être un compétiteur entrepreneur ou un entrepreneur compétiteur. Donc non, c'est pas du tout cloisonné. Et ce qui est important à dire, c'est que les entreprises ont besoin des trois types de profils. elles n'ont pas besoin que des compétiteurs parce qu'elles ont besoin de recruter ce qui représente la réalité de leurs consommateurs et de leurs salariés. Donc elles ont vraiment besoin de s'adresser aux trois.
J'ai l'impression dans ce que vous dites que l'image est très importante, c'est-à-dire que l'image de l'entreprise, l'image de mon job, de ce que je dis à ma famille, à mes amis, et toi tu fais quoi, est très importante et doit être totalement assumée. C'est-à-dire que c'est pas possible de dire ouais je fais ce job, il me plaît pas trop, ouais c'est un peu nul, mais bon j'attends de voir. C'est plus possible ça.
Non, c'est-à-dire qu'il y a un alignement aux valeurs. Qui est fondamental, qui est même le préalable. Le job que je fais traduit qui je suis. Et d'ailleurs, on a titré il n'y a pas très longtemps, si tu n'aimes pas ton job, tu as raté ta vie. Et aujourd'hui, ils ont besoin et d'aimer leur job et d'être fiers de ce qu'ils font.
Vous trouvez les entreprises à la hauteur dans leur démarche de recrutement par rapport à votre analyse de ce qu'est le jeune sur le marché du travail ?
En tout cas, ils y sont de plus en plus sensibles. Et aujourd'hui, tous les investissements dans la marque employeur sont des investissements pour pouvoir attirer, fidéliser et surtout engager cette jeune génération sur le long terme. Donc peut-être qu'elles ont eu un petit retard à l'allumage, mais aujourd'hui elles réagissent, et elles réagissent en mettant des dispositifs qui sont, je trouve, plutôt intéressants.
Faut juste pas trop faire de com.
Voilà.
Parce qu'après, l'effet déceptif est pire.
Absolument. Et c'est vrai que l'affichage des raisons d'être, bon, dans la loi Pacte, ou aujourd'hui d'une marque employeur qui ne reflèterait pas la réalité, le retour de bâton serait absolument énorme.
Merci beaucoup, Manuelle Malot, directrice carrière et prospective de l'EDEC. On va continuer ensemble à parler des cadres et du marché du travail.
Merci.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Les cadres ne sont pas épargnés par les problèmes de discrimination. On en parle avec Laetitia Niodo. Bonjour, vous êtes DGA de l'APEC. Vous avez sorti plein d'études, vous aussi, tout le monde sort plein d'études sur le marché du travail. Les cadres font aussi face à la discrimination à l'embauche. Il y a certains profils qui sont particulièrement touchés. Lesquels ?
Alors, juste une petite précision, Laure, puisque vous m'avez tendu la perche. Oui, l'étude sort beaucoup d'études, parce que nous sommes un observatoire du marché de l'emploi cadre. Donc, en effet, c'est ce qui fait aussi notre force. Et je rappelle que l'ensemble de nos études sont accessibles sur notre site Corporate APEC. Donc,
pour répondre. L'APEC est utile, c'est ça que vous voulez
exactement.
Vous dire.
Exactement. Et pour répondre plus précisément à votre question, oui, les discriminations continuent d'être une réalité sur le marché de l'emploi. Mais également sur le marché de l'emploi cadre, et notamment autour de la discrimination envers les femmes. On observe notamment des chiffres qui reflètent ces discriminations et qui évoluent très peu dans le temps. Par exemple, l'accès des femmes au poste de manager. Mmh. On a aujourd'hui une majorité de femmes diplômées.
Plus
de l'enseignement supérieur. Exactement, elles sont plus diplômées que les hommes. Et pourtant, elles ne représentent que 37% des cadres en France. Et encore pire, j'ai envie de dire, elles ne représentent que 28% des cadres managers. Donc on voit là déjà une discrimination très claire sur l'accès au poste de manager. Et on observe une discrimination également toujours très présente autour du niveau de rémunération des femmes cadres, puisqu'elles sont, au global, payées 15% de moins que leurs collègues hommes. Et y compris à poste et profil équivalent, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes cadres reste de 8%, et ça évolue très très peu depuis encore une dizaine d'années.
Alors, le problème sur ce sujet, c'est comment faire pour savoir, en tant que femme, que vous êtes moins bien payée que votre voisin à poste équivalent, sans rentrer dans le conflit, sans prendre un avocat, sans dire je vais claquer la porte. Non mais comment fait-on ? Moi, je n'ai aucune idée du salaire de mon voisin. Comment je sais si je suis moins bien payée ?
Alors, par exemple, l'APEC met à disposition de tous un outil sur le site apec.fr qui est un outil de simulation de salaire. Et donc, vous rentrez tout un tas de critères qui vous correspondent ou qui correspondent à votre poste. Et vous pouvez avoir une vision très précise, grâce à ce simulateur de salaire, du salaire moyen sur votre poste, sur votre région, sur votre type de formation initiale, de diplôme, etc.
Et une fois que vous savez que vous avez un écart qui n'est pas normal, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, le plus simple, en effet, plutôt que d'aller tout de suite au conflit
Non, mais parce que c'est agaçant. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une position où on s'aperçoit qu'en fait, on est discriminé, alors que ça se trouve, on ne le savait même pas.
Oui, tout à fait. Bon, c'est bien sûr l'échange, c'est bien sûr la discussion. relation d'abord avec sa hiérarchie, mm-hmm. avec ses managers, et si besoin également avec son équipe RH. Et je pense que c'est essentiellement à travers l'échange que les choses peuvent évoluer. Et puis des acteurs comme l'APEC, typiquement, ou d'autres, hein, bien sûr, qui agissent sur les discriminations sur le marché du travail, doivent aussi aider les entreprises, finalement, à changer leur regard, à casser certains stéréotypes, certaines façons un peu traditionnelles de voir les choses. Et donc, nous, on accompagne les entreprises dans cette démarche pour lutter contre les inégalités.
37% des femmes cadres, on était à 30% il y a 20 ans. C'est quand même très, 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 très lent.
Ça évolue doucement.
Qu'est-ce qui fait ? C'est toujours la gestion des enfants en bas âge ? C'est toujours la vie de famille qui pose problème ?
Alors, c'est... pour moi, deux choses essentielles. C'est d'abord l'orientation au niveau des études, et notamment des études supérieures, puisqu'on voit qu'en effet, les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais pas forcément sur les mêmes filières. Et donc, on a clairement une sous-représentation encore des femmes sur les filières techniques et technologiques, là où justement, il y a actuellement beaucoup d'emplois et beaucoup de difficultés de recrutement pour les entreprises. La question de l'orientation, et donc il faut très tôt dans la vie des jeunes filles casser justement les stéréotypes que j'évoquais tout à l'heure pour qu'elles osent s'orienter vers des métiers qui peuvent leur sembler encore un peu masculins. Donc la question de l'orientation et la question, en effet, vous l'évoquiez, de l'équilibre de vie personnelle entre les femmes et les hommes dans la répartition des tâches domestiques, dans la répartition de l'éducation des enfants. C'est un levier majeur, donc tout ce qu'on peut faire par exemple pour lever ses freins en proposant par exemple le congé paternité ou d'autres dispositifs propres à certaines entreprises, c'est bien sûr des éléments qui vont aider les femmes à progresser dans leur évolution professionnelle.
Vous qui voyez les entreprises évoluer, vous avez l'impression quand même qu'il se passe quelque chose, qu'on va avancer plus vite que 7% en 20 ans ?
Oui, il y a une prise de conscience réelle. D'abord, il y a la loi. Qui a évolué depuis quand même une bonne dizaine d'années maintenant.
Heureusement qu'il y a la loi, effectivement.
Voilà, et qui fixe un cadre et qui va quand même amener à contraindre les entreprises à mettre ce sujet en haut de la pile. Et puis, au-delà de, on va dire, des obligations légales autour de la loi Copé-Zimmermann, maintenant la loi Rixin, autour de l'index égalité femmes-hommes, au-delà de cette contrainte légale, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des entreprises et une volonté d'aller plus loin, parce que c'est à la fois un enjeu sociétal, mais aussi un enjeu économique pour les entreprises, puisqu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi qu'on connaît, trois quarts des entreprises nous disent rencontrer des difficultés à recruter. On manque de talents, on manque de compétences. Donc se priver d'un vivier aussi important que peut l'être celui des femmes, par exemple, ce serait tout à fait dommageable, on va dire, pour l'économie des entreprises et l'économie du pays en général.
Faites des maths, faites des sciences, faites des technos, voilà le conseil qu'on peut donner aux jeunes filles. Merci beaucoup Laetitia Gnoto d'être venue nous voir des GA de l'APEC. Je vais donc vous présenter une femme qui vaut le coup.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
On va parler du handicap au travail. Est-ce qu'il faut le rendre invisible ? On est avec Virginie Delalande. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conférencière et avocate. Vous avez écrit « Abandonner, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation ». Vous êtes née avec une surdité profonde. Vous avez fait de votre vie en partie un combat désormais collectif pour le handicap de manière générale. Est-ce que vous avez l'impression qu'on réussit aujourd'hui quand on ne voit plus le handicap, ou alors quand il fait partie de l'identité et qu'il est visible?
Alors, c'est une question très intéressante, mais je pense qu'elle mérite de prendre un petit peu de hauteur, parce qu'on le verrait objectif des personnes en situation de handicap, c'est qu'ils soient complètement banalisés, c'est-à-dire comme leur couleur de cheveux, leur couleur des yeux, et ne pas avec cette image qui fait peur, qui est crue. Et par ailleurs, il faut quand même que la personne en situation de handicap s'entre à pleinement sa place dans notre société. Donc évidemment, on ne peut pas faire comme si le handicap n'existait pas.
Mais vous avez l'impression qu'il faut qu'on... Enfin, ce que vous aimeriez en tant que personne avec un handicap, c'est qu'on dise « Ah, j'ai oublié. Ah, excuse-moi, j'ai complètement oublié qu'il fallait que tu lises sur les lèvres ou que le texto, c'était plus facile. Ah, j'ai oublié, c'est ça.
Alors,
qu'il faut.
Si c'est pour avoir une augmentation de salaire, pour avoir plus de responsabilité, oui, j'aimerais bien qu'on l'oublie. Dans cette configuration-là, oui. Au revoir, si c'est pour complètement oublier le monde de peur que je viens partager et me renvoyer ma situation de handicap, non.
Comment vous trouvez les entreprises aujourd'hui? Moi, je reçois beaucoup d'entreprises qui ont des plans handicap, qui disent qu'ils font énormément de choses pour aider à l'insertion. Elles ne vont pas encore assez loin ou on avance doucement? Comment vous les jugez?
Honnêtement, je trouve qu'il y a une maturité qui se fait de plus en plus sur le sujet. Parce que moi aussi, je travaille énormément avec les entreprises. Je fais des conférences, je les rencontre sur le terrain. Et oui, je vois de très belles évolutions, je vois des personnes pleinement investies. Néanmoins, au niveau des équipes, certaines personnes ont du mal à comprendre la richesse de la diversité. Et c'est mon combat aujourd'hui. C'est comment, en fait, faire du handicap quelque chose qui soit une source de performance pour une entreprise.
Comme une soft skills, comme une compétence supérieure.
Alors, pas
supérieure, c'est pas le bon terme.
Supérieure, mais en fait, ce serait plutôt comme une compétence complémentaire qu'on peut mettre au service du collectif, à la fois des collaborateurs et à la fois de la clientèle. Donc, avoir des parts de marché supplémentaires, etc.
Donc, pour ça, il faudrait sortir un peu de la politique du quota. Parce qu'aujourd'hui, on met le handicap dans un pourcentage et on dit « Ah, j'ai mon quota de handicap ». Est-ce qu'il faut conserver ça? Parce que ça permet, exactement pour les quotas de femmes, d'imposer, d'impulser une politique et que sinon, on n'y arriverait jamais. Ou vous dites c'est un peu contre-productif?
Alors, je suis pour la politique des quotas, pas au sens promener de l'idée, mais parce que je vois bien que c'est ça qui marche aujourd'hui. Néanmoins, ce que j'aimerais plutôt, c'est qu'on parle en fait d'objectif. C'est que ce terme quota, c'est d'être péjoratif dans le terme.
Est-ce que vous avez l'impression que les technologies aujourd'hui ont profondément aidé les personnes atteintes de handicap à s'intégrer dans l'entreprise?
Ah, mais évidemment, en tout cas, en ce qui concerne la sourdité, c'est clair. Personnellement, j'ai vu une énorme évolution entre le début de ma carrière professionnelle où je me débrouillais avec mon handicap, où j'étais de la surcompensation. Et aujourd'hui, où je bénéficie des aménagements de poste qui me permettent d'aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort. Donc, en ce qui me concerne clairement, néanmoins, on a encore aujourd'hui une fracture numérique, par exemple les personnes malvoyantes ou aveugles, pour certains types de handicap. Et donc, on n'a pas encore complètement intégré cette notion d'accessibilité universelle qui, pour moi, est la base de la société bienveillante de demain.
Vous êtes, vous, désormais, Virginie, un rôle modèle, un modèle pour toutes les personnes qui ont cette envie, comme vous, de s'intégrer, de manger le monde. Est-ce que ça vous... parfois, ça vous angoisse ou vous vous dites « je prends cette responsabilité, c'est d'accord
». Alors, au début, ça a vraiment été une vraie angoisse. C'est-à-dire « ah non, non,
c'est beaucoup,
je dis pareil, de trop de furie ». Et puis, j'ai travaillé ça au quotidien. Et je me suis demandé comment je pouvais faire de ça quelque chose de positif pour les autres, pour moi, pour eux. En fait, arriver à faire passer le bon message et surtout, encore une fois, changer le regard de la société sur la différence et pas uniquement sur le handicap. Mais je me suis aperçue qu'à partir du moment où on était différent, on ressentait les mêmes émotions. Où est ma place? À quoi je sers? Pourquoi on me regrette? Pourquoi on ne veut pas de moi?
Et vous êtes lancé quand même un sacré défi parce que en devenant avocate, vous êtes allée quand même vers une profession où c'est l'éloquence qui compte. Vous êtes dit, je choisis le truc le plus dur, comme ça, au moins après, je vous aurais prouvé que le handicap c'est pas un problème. Ça faisait partie de votre réflexion.
C'était plus, je veux m'armer juridiquement pour ne plus laisser les gens décider de ma vie à ma place. Moi, comme vous disiez souvent, Virginie, c'est comme ça. Sauf que quand tu connais la loi, non, ce n'est pas toujours comme ça. Donc ça, c'était mon projet initial. Et ensuite, je me rendais compte que j'étais parmi ces personnes qu'on n'écoutait pas, qu'on entendait même quand elles essayaient de parler. Et donc, ça m'a porté aussi à devenir conférencière.
Merci beaucoup Virginie Delalande d'être venue nous voir, conférencière et avocate. Votre livre Abandonner Jamais, donc vous donnez des conférences partout sur l'insertion et le handicap. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.